Alors bienvenue pour cette quatrième session de la formation théologique que nous avons appelée le Bon Dépôt. En pensant à un verset de l'apôtre Paul quand il écrit à Timothée qui l'encourage à garder le bon dépôt. Il emploie ce terme pour désigner évidemment la doctrine que l'apôtre lui a léguée, lui a confiée. Il lui dit garde le bon dépôt, protège cette doctrine que je t'ai confiée. Et aujourd'hui, nous allons parler du salut. Alors, pour ceux qui ont entendu récemment ce terme de sotériologie, je pense particulièrement aux jeunes adultes, parce qu'on avait fait un jeu il n'y a pas si longtemps et le terme sotériologie était apparu. Et bien, sotériologie, c'est la partie de la théologie qui s'occupe, qui s'intéresse à la doctrine du salut, ce que Dieu a réalisé, ce que Dieu a fait pour sauver les hommes. Et cette doctrine du salut, on va l'aborder en deux parties. Une première aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour nous. Et la deuxième partie dans un mois, quelle est la réponse de l'homme? D'accord? Première partie, ce que Dieu a fait pour nous. Deuxième partie dans un mois, la réponse de l'homme. Alors le mois dernier, si vous étiez là, vous vous souvenez que Jonas a soulevé un sérieux problème. Jonas a soulevé un sérieux problème. Il a dit que nous étions grosso modo, si je peux illustrer son propos, il nous a dit que nous étions comme des cadavres ambulants. Hein, des espèces de zombies. On vit pour le mal. Notre volonté, nos sentiments, notre intelligence sont totalement corrompus en tant qu'êtres humains. Nous sommes moralement dépravés. Nous sommes séparés de Dieu et donc nous sommes morts spirituellement. Nous vivons dans un environnement qui est d'ailleurs maudit et on n'arrive pas à s'entendre entre nous et tout le potentiel merveilleux de l'homme semble avoir été totalement perverti. On a vu que la Bible portait en effet sur l'humanité un regard très lucide et cohérent en fait. Depuis plusieurs millénaires, la Bible n'a jamais été prise au dépourvu dans son discours sur l'homme. Elle n'a pas été prise au dépourvu, la Bible, quand il y a eu les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle. Elle n'a pas été prise au dépourvu quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl ou l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Elle n'a pas été prise au dépourvu quand il y a eu les attaques du 11 septembre 2001. Elle n'a pas été prise au dépourvu face aux grandes catastrophes écologiques et aux grands soucis écologiques de notre temps. Elle n'a pas été prise au dépourvu. Et elle n'est pas prise au dépourvu quand il y a des gens qui manifestent dans la rue, quand il y a des crises sociales, des familles qui se brisent, des maladies, des accidents de la route, etc., etc. La Bible n'a jamais été prise au dépourvu. Elle n'est toujours pas prise au dépourvu en ce qui concerne la condition humaine. Moïse l'a écrit, et Jonas nous l'a expliqué de nouveau le mois dernier, l'humanité a perdu son état originel. L'humanité a perdu son état originel, un état qui n'était pas comme celui d'aujourd'hui, qui n'était pas comme celui-ci. Et l'humanité tout entière est déchue à cause du fait, vous vous rappelez, à cause du fait que le premier homme, pour le dire tout simplement, a désobéi à Dieu. L'humanité est déchue à cause de ça. Et toute l'humanité s'est enlisée dans les effets de ce qu'il convient d'appeler la chute. La chute. D'accord? L'humanité est tombée, pour ainsi dire, au fond d'un gouffre dont il est impossible de sortir, non seulement parce que les parois du gouffre sont trop lisses, non seulement parce que l'issue du gouffre est trop éloignée, mais en plus parce qu'en fait, nous n'éprouvons ni le besoin, ni le désir d'en sortir. L'apôtre Jean écrit que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, tout simplement. L'apôtre Paul en rajoute une couche quand il dit « Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. » D'après la Bible, vous voyez, depuis la chute d'Adam et Ève, tout être humain né d'un père et d'une mère, tout être humain né d'un père et d'une mère, a même été conçu dans le péché. Conçu dans le péché. Ce qui veut dire que même les enfants les plus sages et les mieux éduqués du monde sont quand même coupables aux yeux de Dieu, parce qu'ils étaient déjà spirituellement morts dans le ventre de leur mère. On ne devient pas pécheur parce qu'on pêche. Mais on pêche parce qu'on est déjà pécheur. On ne devient pas pécheur parce qu'un jour on commence à pécher, mais un jour on commence à pécher parce qu'on est déjà pécheur. Il n'y a pas d'exception, on est tous dans le pétrin, pour ainsi dire. Tous dans le pétrin. Pour le dire avec les paroles de l'apôtre Paul, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème. Et c'est notre point de départ cet après-midi. Alors, quel espoir y a-t-il? Quel espoir y a-t-il? Eh bien, c'est le sujet, figurez-vous, d'un livre très connu, que je vous recommande, qui s'appelle la Bible. Si Dieu a pris la peine de nous révéler des choses, c'est pour nous montrer qu'il se préoccupe de nous, malgré notre état déchu, malgré le fait que nous nous trouvons au fond du gouffre, dans les ténèbres, et que nous nous y trouvions très confortables. Si Dieu a pris la peine de nous révéler des choses, c'est aussi pour nous montrer qu'il a prévu une issue ou un salut pour l'homme, bien que nous ne le méritions pas. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est le sujet cet après-midi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait pour nous sortir de là? Premièrement, je crois qu'il y a une distinction, un schéma, disons, utile à garder à l'esprit tout au long de cet exposé, mais aussi tout au long de votre vie. Ce schéma, c'est comment l'histoire des hommes se divise-t-elle? Quelles sont les grandes parties de l'histoire de l'humanité? Pour comprendre ce que la Bible dit au sujet du salut, je crois qu'il faut garder en tête ce schéma qui est relativement simple, vous allez le voir, concernant la façon dont l'histoire des hommes se divise. Et elle se divise en trois parties. En trois parties importantes. En trois parties qui se distinguent les unes des autres par une relation entre les hommes et Dieu qui est différente. Dans ces trois parties, dans ces trois divisions, ces trois segments de l'histoire de l'humanité. D'accord? La première partie, si on imagine une ligne, une chronologie de l'histoire de l'humanité, la première partie, c'est de la création de l'humanité, d'accord, là où l'histoire commence, jusqu'au premier péché, qui coïncide avec la chute. D'accord? Les conditions de la relation entre Dieu et les hommes, pendant cette première partie, étaient d'une certaine façon, on verra ça dans un moment. La deuxième partie, c'est du premier péché, jusqu'au jugement dernier. Du premier péché, de la chute de l'humanité, jusqu'au jugement dernier, c'est-à-dire l'avènement de Christ et l'inauguration des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et la troisième partie, eh ben, elle coule de source, c'est du jugement dernier jusque dans l'éternité. D'accord? Donc, de la création à la chute, de la chute au jugement dernier, et ensuite du jugement dernier dans l'éternité. Ces trois parties de l'histoire des hommes. Pour comprendre également la façon dont Dieu traite avec les hommes et ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fait pour nous, il faut aussi comprendre le concept d'une alliance. Et on va voir que Dieu, dans la Bible, conclut des alliances. Il conclut des alliances. Et on va voir qu'il y a deux alliances principales qu'on distingue en théologie, d'accord? L'une s'appelle l'alliance des œuvres et l'autre l'alliance de grâce. Dans un quatrième temps, le petit D, vous voyez sur votre fiche, on parlera de ce que ça veut dire que l'alliance de rédemption. C'est un peu compliqué, mais essayez de suivre, d'accord? Deux alliances principales, l'alliance des œuvres, l'alliance de grâce. De quoi s'agit-il? Alors on va lire deux passages pour commencer. Genèse 2, versets 15 à 17, si quelqu'un peut prendre ce texte, et moi je lirai Romains 5, 18 à 19. Si quelqu'un peut lire Genèse 2, 15 à 17, s'il vous plaît.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Et maintenant, Romains 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Gardons à l'esprit donc ce schéma, c'est les trois grandes parties de l'histoire de l'humanité. Le jugement dernier, pour nous aujourd'hui, il est à venir, il est dans le futur, d'accord? Mais la chute, elle se situe dans le passé, on est d'accord? La chute constitue donc pour nous aujourd'hui la plus grande rupture dans l'histoire de l'humanité, en tout cas jusqu'ici. En tout cas, jusqu'à présent. Et pour comprendre ce que Dieu a fait pour nous sortir du gouffre dans lequel on est tombé, il faut comprendre dans un premier temps ce que l'homme a perdu en y tombant. D'accord? Et la question est donc la suivante: comment était-ce avant la chute? Et comment est-ce depuis la chute? On sait que Dieu a créé Adam et Ève dans un état qui était bon, j'en en a parlé le mois dernier, dans un état qui était bon, mais ce n'était pas un état parfait. Ils étaient sains et heureux dans une relation constante, personnelle, intime avec Dieu, dans un jardin merveilleux. Mais c'était un état probatoire. Il leur manquait encore quelque chose. Ce qui leur manquait à Adam et Ève, c'était la maturité et la gloire. Ils étaient dans un état probatoire, pas un état définitif. Ils avaient la possibilité de désobéir à Dieu. Ils avaient la possibilité de désobéir à Dieu. Dieu leur a promis la vie à condition qu'ils persévèrent dans l'obéissance. D'accord ? À condition qu'ils persévèrent dans leur confiance en Dieu, dans leur dépendance du Créateur. Et parce que c'était une forme de contrat entre Dieu et l'homme, une forme d'alliance, on a appelé ça en théologie l'alliance des œuvres. L'alliance des œuvres, c'est cette relation que Dieu a établie avec Adam et Ève avant la chute, en fonction de laquelle, s'ils persévéraient, Dieu leur promettait la vie. D'accord ? La gloire, la vie éternelle. Voilà. Mais ils devaient persévérer, il y avait une condition. Alliance des œuvres. Adam, vous le savez, a désobéi. Et donc, comme l'apôtre Paul nous l'a rappelé dans ce passage de l'Épître aux Romains, donc l'humanité a souffert les conséquences prévues par l'alliance des œuvres. C'était les conditions prévues au contrat. L'homme a perdu sa communion avec Dieu, ainsi que l'accès à l'arbre de vie. Dieu a exercé ses jugements conformément aux dispositions de l'alliance des œuvres qu'il avait conclue avec Adam. Et pourtant, le jour de la chute et le jour où Dieu a exercé la sentence annoncée à l'avance, Dieu, si j'ose dire, s'est empressé de faire une promesse. Il s'est empressé de faire une promesse. C'est Genèse 3, verset 15, où vous savez ce que Dieu dit. À ce moment-là, il annonce quelque chose à venir. Il dit qu'il y aura inimitié entre la descendance de la femme et le serpent, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, tandis que le serpent mordra le talon de la descendance de la femme. Cette promesse que Dieu fait dès le troisième chapitre de la Bible, au moment même où il est en train de juger Adam et Ève pour leur désobéissance, cette promesse que Dieu s'est empressé de faire, on l'appelle parfois, en théologie, le proto-évangile, autrement dit le premier évangile, la première forme de l'évangile dans la Bible, dans l'histoire même, je dirais, de l'humanité. Lisons Genèse, maintenant lisons... Non, on va dire ça dans quelques instants. Et par cette promesse inconditionnelle, okay, Dieu, rien ne l'avait poussé à le faire, il y va de sa propre initiative et il fait cette promesse ce jour-là, le jour de la chute. Et par cette promesse inconditionnelle, Dieu s'est engagé à ce moment-là à faire quelque chose pour délivrer l'humanité, une fois pour toutes, du mal. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et à partir de ce moment-là, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on attend ? On attend la venue de cette fameuse descendance qui doit écraser la tête du serpent. On attend sa venue. Elle est annoncée, elle est promise, et on attend qu'elle vienne et qu'elle écrase la tête du serpent. Ensuite, dans les chapitres suivants de la Genèse, on voit qu'il y a trois personnes qui sont mentionnées explicitement comme étant au bénéfice de la faveur inconditionnelle de Dieu. Trois personnes, c'est très intéressant. Ces trois personnes sont les suivantes. Abel, Genèse 4, verset 4, Enoch, Genèse 5, verset 22 et 24, et Noé, Genèse 6, verset 8. Ces trois personnes, explicitement, dans ces quelques chapitres, ces chapitres de la Genèse, Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6, sont mentionnées comme recevant explicitement, comme étant au bénéfice, explicitement, de la faveur inconditionnelle de Dieu. Faveur inconditionnelle, c'est synonyme avec grâce, grâce de Dieu. Et ensuite va apparaître un personnage très important, un personnage très important. Alors maintenant, on va lire Genèse 12, versets 1 à 3. Si quelqu'un peut lire Genèse 12, versets 1 à 3. Et moi, je lirai Galates 3, versets 6 à 9.
L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
Merci. Le commentaire de l'apôtre Paul sur ce texte, voici ce qu'il dit à Galates 3, versets 6 à 9. « Ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, dans le grec, cet évangile, à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est ce que tu viens de lire, Loïc. « De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. » Donc on a un personnage très important qui apparaît au chapitre 12 de la Genèse. Ce personnage, c'est Abraham. Et le chapitre 12 de la Genèse marque un tournant extrêmement important dans le récit. Dieu fait une promesse sans précédent à un homme en particulier et à sa descendance. Et qu'est-ce qu'il lui promet ? Il lui promet cette promesse, elle est développée pendant les chapitres suivants, tout au long de la vie d'Abraham. Mais cette promesse, si on la regarde, elle contient un territoire béni. Elle contient un peuple nombreux que Dieu promet. Et puis une relation privilégiée avec Dieu. Cette promesse a d'ailleurs une portée universelle, elle a une portée universelle dès les premiers versets du chapitre 12. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est Dieu qui parle à Abraham, donc il fait une promesse à un homme en particulier, mais la portée de cette promesse est universelle, elle concerne toutes les familles de la terre. Et cette promesse s'accomplira, d'après l'apôtre Paul, mais on peut aussi le voir dans si on lisait le reste du récit, elle s'accomplira pour ceux qui croient en Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui ont la foi, qui se confie en lui. Et cette promesse deviendra réalité à travers la venue et l'œuvre de cette fameuse descendance promise. Dans Genèse 15 et ensuite Genèse 17, on voit que Dieu, par le moyen explicite d'une alliance conclue avec Abraham, Dieu s'engage à réaliser cette promesse qu'il lui a faite. Dieu s'engage à la réaliser. Et pour montrer combien il est sérieux, comme si la parole de Dieu ne suffisait pas, il va s'engager par une alliance. Dieu s'engage vis-à-vis d'un homme et d'une famille par une alliance, rendez-vous compte. C'est pour dire à quel point Dieu était déterminé à réaliser cette promesse. Dieu va ensuite, au fil de l'histoire du peuple de Dieu à partir d'Abraham, Dieu va ajouter toutes sortes de dispositions particulières. Pour la plupart, ce sont des dispositions cultuelles qui sont censés étayer tout au long de l'Ancien Testament la promesse qu'il a faite, comme la circoncision qui vient sceller cette promesse, la fête de la Pâque que les Israélites étaient censés célébrer tous les ans, les sacrifices d'ailleurs offerts au temple, le temple lui-même, avant le temple il y avait même le tabernacle, et puis ensuite il y a eu tous les oracles des prophètes qui ont été donnés au peuple, toutes ces dispositions particulières que Dieu va rajouter au fil de l'histoire du peuple de Dieu pour étayer, pour appuyer, pour confirmer sa promesse et pour pointer dans une direction précise vers la venue et l'œuvre de la descendance promise. Depuis Genèse, chapitre 3, verset 15. Et enfin, Dieu envoie son Fils. Après avoir parlé de diverses manières, il envoie son Fils accomplir une fois pour toutes ce qui était promis. Jésus est venu. Il a vu, il a vaincu, il a écrasé la tête du serpent par sa mort et sa résurrection, ce qui permet à tout homme de toute nation de recevoir par la foi le pardon de ses péchés et d'être scellé pour la vie éternelle. Une vie éternelle en compagnie d'un peuple nombreux, une multitude d'êtres humains, une vie éternelle dans un territoire béni sur la nouvelle terre et une vie éternelle pour toujours dans une relation privilégiée, intime avec Dieu lui-même. Tout cela, c'est l'alliance de grâce. C'est l'alliance de grâce parce que Dieu, par pure grâce, s'est engagé dans l'histoire des hommes à faire quelque chose pour les sortir du pétrin dans lequel nous étions enlisés, pour nous sortir du gouffre dans lequel, avec Adam, nous sommes tous tombés. C'est une seule et même alliance de grâce. Donc vous voyez, avant la chute, alliance des œuvres, après la chute, alliance de grâce. Dieu s'engage par grâce, et le moyen du salut, ce n'est pas l'obéissance, mais la foi. La foi. Parlons maintenant de l'alliance de rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un peu une parenthèse. Mais lisons Éphésiens 1, versets 4 à 8. Donc moi, je vais lire Éphésiens 1, 4 à 8, et puis quelqu'un d'autre, Apocalypse 13, verset 8. D'accord? Moi, je vais lire Éphésiens 1, 4 à 8, quelqu'un d'autre, Apocalypse 13, verset 8. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Apocalypse 13, verset 8.
De la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.
Merci. Je voudrais attirer votre attention sur cette expression, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il a fallu que Dieu improvise après la chute d'Adam et Ève? Dieu s'est dit, mince, ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour régler le problème? Est-ce que Dieu a dû improviser pour trouver une solution? Pas du tout. Pas du tout, d'accord? Dieu n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. En fait, avant même de créer le monde, on a vu ça il y a quelques mois quand on a parlé de Dieu, qui il est et ce qu'il fait, vous vous souvenez? Avant même de créer le monde, Dieu avait déjà décrété tout ce qui devait se passer, sans pour autant, je le précise, hein, sans pour autant que cela fasse de Dieu l'auteur du mal. D'accord? La Bible est claire à ce sujet. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et en même temps, rien n'échappe à sa volonté souveraine. Donc dans toute l'éternité, Dieu avait quand même décrété tout ce qui devait se passer. Et c'est pourquoi, tout en décrétant, c'est un mystère, je le reconnais, le mystère de la souveraineté de Dieu, mais tout en décrétant le problème, Dieu a aussi décrété la solution au problème. Dieu avait décrété la chute, mais il avait aussi décrété la solution à la chute. Cette solution se trouve dans une sorte de plan conçu de toute éternité par la Trinité elle-même, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait un plan conçu de toute éternité pour permettre le salut, pour réaliser le salut des hommes. C'est un genre d'accord entre les trois personnes de la Trinité où chaque personne a un rôle particulier dans ce salut qu'ils avaient prévu d'accomplir de toute éternité pour l'homme. Et en vertu de ce plan éternel, conçu par la Trinité, eh bien le Fils devait être envoyé, donc Dieu le Fils devait être envoyé par Dieu le Père, accomplir par la puissance de Dieu le Saint-Esprit la rédemption d'un certain nombre d'êtres humains. Et dans Éphésiens 1, le texte que j'ai lu il y a quelques instants, on voit que pour Paul, Dieu avait décidé avant même la création du monde, avant même de dire que la lumière soit, Dieu avait déjà décidé quelle serait à la fois, écoutez bien, à la fois le moyen et les bénéficiaires du salut. Dieu avait déjà décidé quels seraient le moyen et les bénéficiaires de son plan pour le salut des hommes. Avant de créer le monde, Dieu a souverainement choisi qui serait sauvé. On parle d'une élection en théologie, l'élection inconditionnelle de Dieu. Dieu a souverainement choisi qui serait sauvé avant même de créer le monde, rendez-vous compte. Et le Père a décidé, avant même de créer le monde, il avait déjà décidé d'envoyer le Fils, et le Fils était déjà d'accord pour obéir au Père, et ils étaient d'accord pour que le Fils vienne, par la puissance de l'Esprit, faire ce qui était nécessaire pour que ces gens, que Dieu avait désignés de toute éternité, pour que ces gens soient rachetés, c'est-à-dire que le Fils devait venir payer le prix exigé par leur culpabilité à la croix. Le Fils est donc venu, conformément à ce plan conçu de toute éternité, pour accomplir la rédemption des personnes que Dieu avait désignées d'avance. On parle ici, en théologie, d'expiation limitée. Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. Il n'a pas payé pour tous les hommes. Il a payé pour ceux qui se confient en lui. Autrement, ceux qui ne se confient pas en lui, ils peuvent s'en ficher complètement, puisque de toute façon, quelqu'un a payé pour leur péché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute éternité, Dieu avait fixé qui se confierait en lui, en Jésus pour le salut, et Jésus est venu pour cela. Et parce qu'il y a là aussi un plan conçu d'éternité, un accord entre les personnes de la Trinité, un accord éternel, et parce qu'on y trouve certains éléments caractéristiques de ce qu'on appelle une alliance, c'est pourquoi on appelle ce plan éternel conçu par Dieu, on appelle cela l'alliance de rédemption. L'alliance de rédemption. D'accord ? L'alliance de rédemption, ce n'est pas une alliance entre Dieu et les hommes, c'est un plan conçu de toute éternité, le plan de la rédemption, le plan du salut conçu par Dieu de toute éternité, et en fonction duquel les personnes de la Trinité ont chacune un rôle particulier à jouer pour le salut de certains hommes et certaines femmes, bien entendu. On trouve aussi le terme, à la place d'alliance de rédemption, on trouve parfois le terme alliance éternelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie notamment cette expression, le sang d'une alliance éternelle. Jean parle de Jésus, l'agneau immolé, dès la fondation du monde, dès la fondation du monde. Ok, on a parlé assez longuement de cette partie-là, on va passer à la deuxième partie. Vous voyez donc que Dieu conclut des alliances. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour nous ? Il appelle des hommes. Il appelle des hommes. Quand je dis hommes, bien entendu, c'est le terme générique pour les êtres humains, hommes et femmes. Si quelqu'un peut lire Jean, chapitre 6, versets 37 à 39, et moi je vais lire Romains 9, 14 à 24.
Si le Père me donne, il viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a été donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Romains, chapitre 9. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Certes non, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et tu me diras donc, « Mais qu'a-t-il encore à blâmer ? Car qui résiste à sa volonté ?» Mais toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris ? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? C'est-à-dire nous, qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Vous voyez, on l'a dit, hein, d'après la Bible, Dieu a donc décidé, avant même la création du monde, de sauver certains hommes par le sang de Jésus. Dieu a donc choisi ou élu, on peut le dire, certains hommes pour le salut. C'est une élection totalement inconditionnelle. Cette élection, ce choix de Dieu ne dépend d'aucun mérite de notre part. D'accord ? J'insiste. Hein. Cette élection, ce choix de Dieu, ne dépend d'aucun mérite de notre part. Dieu ne nous a pas élus parce qu'il aurait vu à l'avance qu'on aurait la foi, ou qu'on serait de bonnes personnes, ou qu'on le chercherait. Notre salut repose entièrement sur une décision éternelle de sa part, de la part de Dieu. Il nous a choisis par sa grâce, dans son amour et pour sa gloire. Tout est de lui, par lui et pour lui. Cette prédestination, pour employer le terme biblique, cette prédestination est éternelle et immuable, mais elle appartient au conseil secret de Dieu. Au conseil secret de Dieu. Nous ne pouvons pas, nous aujourd'hui, consulter le livre de vie. Tiens, je me demande si mon voisin est dans l'annuaire du livre de vie. Tiens, je vais chercher. Non, nous ne pouvons pas consulter le livre de vie. La prédestination appartient au conseil secret de Dieu. La Bible parle de la prédestination dans deux buts, pour deux raisons. Elle en parle dans le but, d'une part, de magnifier la grâce de Dieu et par conséquent de détruire tout orgueil en nous, pour nous montrer ce n'est pas du tout parce que tu as fait quelque chose de bien que Dieu te sauve, c'est uniquement parce que Dieu lui-même, souverainement, inconditionnellement, t'a choisi selon le conseil parfait de sa volonté. Première raison. Mais la deuxième raison pour laquelle la Bible nous parle de la prédestination, c'est dans le but de montrer aux croyants qu'ils sont en sécurité. qu'ils sont en sécurité. Dieu les a sauvés parce que éternellement, il avait décidé de le faire. C'est une décision éternelle, immuable, comme tous les décrets de Dieu. Puisque Dieu a décrété le salut des élus, il a aussi décrété tous les moyens nécessaires à leur salut. Jésus, on l'a dit, est donc venu, conformément au plan de Dieu, accomplir l'expiation de nos péchés. Et maintenant, par le Saint-Esprit, Dieu appelle les élus à la foi, et l'appel du Saint-Esprit, l'appel de Dieu par le Saint-Esprit est un appel efficace. Pour cela, le Saint-Esprit illumine leur intelligence, l'intelligence des croyants, pour qu'ils comprennent l'Évangile. Le Saint-Esprit renouvelle leur volonté pour qu'ils désirent le bien. Le Saint-Esprit les ressuscite spirituellement, il les attire à Jésus, il fait naître la foi. Tout cela, il le fait ordinairement, je dis bien ordinairement, par le moyen de la parole de Dieu. Disons, 1 Corinthiens 2, versets 10 à 14, si quelqu'un peut le lire, et je lirai l'autre passage. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 14.
Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
Merci. Pardon. Non, vas-y.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que l'Esprit est humain pour lui.
Ok, merci. Et Tite 3, versets 4 à 7. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. D'accord ? Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Rappelez-vous ce qu'a dit Paul, Dieu dit « Je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde ? J'ai compassion de qui je veux ?» Il nous a sauvés en vertu de sa propre miséricorde, et il ajoute « Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » L'appel de Dieu par le Saint-Esprit, ordinairement par le moyen de sa parole, est donc irrésistible pour tous ceux que Dieu a choisi de sauver. On appelle cela en théologie la vocation efficace, la vocation efficace. Et pourtant, bien que l'appel de Dieu soit irrésistible, Dieu ne fait pas violence à notre volonté. Dieu produit en nous, par son Saint-Esprit, la volonté d'être sauvé. Mais cette volonté, c'est quand même la nôtre. Et là, on touche encore une fois au mystère de la relation entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. C'est Dieu qui produit en nous la volonté d'être sauvé, mais cette volonté, elle est quand même à nous. C'est quand même la nôtre. Cette volonté procède du cœur de chair que Dieu nous a donné à la place du cœur de pierre, d'après les paroles, d'après l'image du prophète Ézéchiel. La régénération, donc, équivaut, donc en théologie on parle de régénération, on a vu que c'est aussi un terme biblique, régénération, mais dans la Bible on a d'autres expressions qui veulent dire la même chose, comme nouvelle naissance, ou comme baptême de l'esprit, ou comme résurrection avec Christ. Vous vous souvenez, Paul dit « Je suis ressuscité avec Christ ». Au moment où il dit ça, il n'est pas ressuscité corporellement, mais il veut dire évidemment « Il est ressuscité spirituellement avec Christ ». Le Saint-Esprit lui a redonné cette vie spirituelle qu'Adam avait perdue par la chute, par sa désobéissance. D'accord. Dieu a donc prédestiné des hommes au salut et il a préordonné tous les moyens nécessaires à leur salut. Vous voyez qu'on est vraiment en train de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Pour l'instant, c'est Dieu qui fait les choses pour nous. Hein. Dieu a prédestiné des hommes au salut, il a préordonné tous les moyens nécessaires à leur salut. Cette doctrine suscite couramment deux questions. Deux questions pratiques que vous vous posez peut-être maintenant ou que vous vous êtes déjà posées. Premièrement, si Dieu choisit d'avance qui il va sauver, et si ensuite il agit dans leur vie par le Saint-Esprit pour régénérer ces personnes et pour les amener à la foi, qu'en est-il des enfants qui meurent en bas âge avant même d'avoir le temps, entre guillemets, le temps de répondre positivement à l'évangile? Dieu est souverain et il permet que des enfants de croyants même, meurent en bas âge. Qu'en est-il pour eux? Semble-t-il, ils n'ont même pas eu le temps d'avoir la foi. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que Dieu nous sauve non pas en vertu de notre foi, mais en vertu de notre élection en Jésus. Suivez bien. Dieu nous sauve parce qu'il nous a élus en Jésus de toute éternité pour le salut. Il ne nous sauve pas en vertu de la foi, mais par le moyen de la foi. Il ne nous sauve pas sur la base de notre foi, mais par le moyen de la foi. Il ne nous sauve pas parce qu'on croit en lui, il nous sauve fondamentalement parce qu'il nous a élus pour être sauvés en Christ avant la fondation du monde. La foi n'est donc pas une œuvre méritoire, d'accord? La foi n'est pas une œuvre méritoire et pourtant, en tant que protestant, en tant qu'évangélique, parfois notre discours laisse entendre, bien malgré nous, bien malgré notre théologie, que la foi est une œuvre qui nous fasse, qui est une forme d'œuvre qui va nous faire mériter le salut. Mais nous, on n'est pas sauvés sur la base de notre foi. On est sauvés sur la base de notre élection en Jésus-Christ, par le moyen de la foi que Dieu donne. La foi est un don de Dieu, et Dieu, mes amis, est capable de régénérer un enfant dans le ventre de sa mère et de lui donner la foi si cet enfant est élu. Rappelez-vous que pour Jésus, les enfants sont même des exemples de foi. En ce qui concerne les croyants en particulier, parce que les promesses de Dieu ont toujours eu une portée familiale, les parents qui perdent des enfants en bas âge peuvent se reposer sur les promesses de grâce de Dieu qui s'étendent à leurs enfants. On va en parler plus longuement de cette question lorsque nous aborderons la question du baptême. Parce que dans la question du baptême, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans quelques mois, je ne sais pas quand exactement. Évidemment, la question se pose de savoir qui doit être baptisé. Les croyants, ok, et les enfants des croyants, oui ou non? C'est une question qu'on se posera à ce moment-là et on va parler du statut des enfants des croyants aux yeux de Dieu. En tout cas, les promesses de Dieu ont toujours eu une portée familiale. Vous pouvez voir dans Genèse 17, 7, Acte 2, 39, 1 Corinthiens 7, 14, par exemple, que c'est le cas. Et donc que les parents qui perdent des enfants en bas âge, parents croyants, peuvent se reposer sur ces promesses de grâce de Dieu qui s'étendent aussi à leurs enfants. La deuxième question qui se pose, quand on parle de l'appel efficace de Dieu, de la prédestination, de la régénération, du fait que Dieu accomplit tout ça de sa propre initiative, selon sa propre volonté. La deuxième question qui se pose souvent, c'est puisque Dieu choisit qui il va sauver, de toute éternité, décret éternel, immuable, puisque Dieu réalise dans la vie des élus tout ce qui est nécessaire à leur salut, notamment en les régénérant par l'action de son Saint-Esprit, en les appelant efficacement à lui et en leur donnant la foi, comment se fait-il, si Dieu fait tout ça pour quelqu'un, comment se fait-il que certaines personnes semblent perdre la foi? Ces gens, semble-t-il, sont appelés par Dieu. Ils font profession de foi en Jésus. Ils participent assidûment à la vie de l'Église. Et puis ils finissent pourtant par s'éloigner et par renier le Seigneur. On appelle cela l'apostasie. L'apostasie, quand on renie le Seigneur. C'est des choses qui arrivent, en tout cas, on les observe, n'est-ce pas? On les constate autour de nous. Là aussi, il y a deux choses à dire. D'abord, quand Dieu donne la foi, il faut en être convaincu, quand Dieu donne la foi, il ne la reprend pas. Quand Dieu ressuscite quelqu'un spirituellement, on ne peut plus mourir spirituellement. Quand Dieu choisit de sauver quelqu'un, cette élection, je l'ai dit, elle est éternelle et immuable. Donc, on ne peut pas être réellement élu et régénéré et en fin de compte, ne pas être sauvé. On ne peut pas. La deuxième chose qu'il faut dire, par conséquent, c'est que si quelqu'un effectivement renie le Seigneur, après avoir un temps fait profession de foi en lui, c'est que cette foi était probablement superficielle. En tout cas, ce n'était pas la foi que Dieu donne, mais peut-être que c'était une foi intellectuelle, une foi apparente, une foi temporaire, peut-être même une foi hypocrite ou une foi intéressée. Comme l'enseigne la Bible, d'ailleurs, les fruits d'une relation vivante et authentique avec le Seigneur se manifestent dans la durée. Les fruits d'une relation authentique et vivante avec le Seigneur se manifestent dans la durée. Jean chapitre 15, Hébreux chapitre 6, par exemple. D'accord. Troisièmement, Dieu non seulement conclut des alliances, non seulement il appelle des hommes, troisièmement, il justifie des hommes. Si quelqu'un peut préparer Romains 6, versets 6 et 7, je vais lire psaume 32, 1 à 7. Quelqu'un prépare Romains 6, versets 6 et 7. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Romains 6, versets 6 et 7. Allez Loïc, on t'écoute. Je vois qu'il y en a un qui a amené sa Bible, c'est bien.
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché.
Merci. La première chose que Dieu fait, Dieu fait plusieurs choses pour justifier les hommes. Le premier aspect, c'est qu'il acquitte leurs dettes. Les hommes que Dieu a choisis, il les appelle pour qu'ils entrent par la foi au bénéfice de ce que Jésus a réalisé pour eux. Et ce que Jésus a réalisé pour eux d'abord, comme le dit ce texte, c'est qu'il est mort pour régler la dette que nous devions à Dieu à cause de nos péchés. Étant élu en Jésus, donc on l'a dit, étant élu en Jésus de toute éternité, étant uni à Jésus par la foi que Dieu nous a donnée, c'est comme si c'était nous, les croyants, qui étions morts sur la croix. Jésus est mort sur la croix, mais comme nous sommes unis à lui, c'est comme si c'est nous qui étions morts sur la croix, sans vraiment l'être. C'est comme si nous avions effectivement réglé intégralement la dette de nos péchés. Sauf que c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Aux yeux de Dieu, la dette du croyant est intégralement acquittée. Premier aspect, une dette acquittée. Deuxième aspect, une justice imputée. Si quelqu'un peut lire Romains 3, versets 23 et 24.
Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus.
Merci, un texte classique, n'est-ce pas ? Romains 4, verset 20, jusqu'au début du chapitre 5. Mais face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Et ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, et ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre volet donc de la justification par la foi, c'est ce n'est pas seulement l'acquittement d'une dette, mais c'est aussi l'imputation d'une justice. Non seulement le croyant entre au bénéfice du sacrifice expiatoire de Jésus, mais il entre aussi au bénéfice de la parfaite justice de Jésus. Non seulement son sacrifice expiatoire, mais encore sa parfaite justice. Il y a eu une forme d'échange entre Jésus et le croyant. On parle de substitution en théologie. Jésus a pris notre culpabilité sur lui et il a mis sur nous sa justice. D'accord ? Il n'a pas seulement pris notre culpabilité, mais il l'a échangé contre sa justice. La confession de foi de Westminster, d'ailleurs, nous dit que deux choses nous ont été imputées dans le cadre de la justification. Et voici le langage de la confession de foi. D'une part, la satisfaction du Christ, donc son sacrifice à la croix, la satisfaction de la justice de Dieu, l'expiation de nos péchés, d'accord ? La satisfaction du Christ, en théologie, on parlera d'obéissance passive, par opposition à l'obéissance active, et dans la confession de foi, c'est juste satisfaction du Christ et obéissance de Christ. Les deux nous sont imputés. En théologie, c'est obéissance passive, obéissance active, la vie parfaite qu'il a menée en conformité avec la loi de Dieu, contrairement à Adam. D'accord ? Donc quand la Bible parle de Jésus comme étant le second Adam, par opposition au premier Adam, Jésus, lui, a vécu une vie en tant qu'être humain en parfaite conformité avec la loi de Dieu. La Bible appelle Jésus le juste, pas un juste, le juste. Les deux choses donc nous sont imputées, la satisfaction de la justice de Dieu par le sacrifice expiatoire de Jésus, mais aussi sa justice, son obéissance parfaite à la loi de Dieu. Les deux nous sont imputés en échange de nos péchés. Quand on parle de justification, de la façon dont Dieu justifie les hommes, Dieu justifie les hommes en les déclarant justes. C'est une déclaration de type judiciaire. On va lire deux versets. Le premier, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Si quelqu'un peut le lire, ou le réciter par cœur. 2 Corinthiens 5, verset 21, je lirai l'autre passage dans Hébreu.
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Vous avez bien entendu, hein ? Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. C'est incroyable. Hébreu 11, verset 4. Les questions ici, pour ceux qui suivent l'étude biblique le jeudi soir, les questions de tous ces exemples de foi dans l'Ancien Testament. Et le premier, c'est Abel. Et voici ce qui est dit au sujet d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, par la foi, il fut déclaré juste. Il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Abel, je vous rappelle, c'est dans la Bible le premier exemple explicite d'un homme qui reçoit la faveur inconditionnelle de Dieu. Comment est-ce qu'il la reçoit ? Dieu le déclare juste par sa foi. Abel est déclaré juste par le moyen de sa foi. Justification par la foi. Premier homme qui est vécu après Adam et Ève. Comment ça marche ? Est-ce que tout d'un coup, quand on se convertit, on devient des êtres humains parfaits, comme Jésus l'a été ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire que Dieu nous impute la justice de Jésus-Christ ? Non. Au moment de notre conversion, au moment donc, pour employer quelques synonymes, au moment de notre nouvelle naissance, au moment de notre régénération, au moment où le Saint-Esprit nous fait entrer au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous, à ce moment-là, nous sommes déclarés justes, déclarés justes. Dieu ne nous rend pas intrinsèquement justes instantanément, mais instantanément, il nous rend justes à ses yeux. D'accord ? Autrement dit, Dieu nous voit en Jésus. Dieu voit le croyant en Jésus. Il nous regarde et il ne voit pas notre péché, pour ainsi dire, mais il voit la justice parfaite de son Fils. Quand il vous regarde, quand il me regarde, il voit la justice parfaite de Jésus-Christ. De telle sorte, d'une part, que nous ne recevions pas le châtiment que méritent nos péchés, mais d'autre part, de telle sorte que le mérite de ce salut demeure entièrement en Jésus. Dieu nous impute la justice de son Fils, mais pas le mérite de cette justice. La justice de Jésus nous est attribuée légalement, gratuitement, mais le mérite de cette justice demeure entièrement en Jésus, et donc toute la gloire lui revient exclusivement. Dieu ne nous rend pas capables d'être sauvés. Dieu ne nous rend pas méritants d'être sauvés. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais étant incapables d'être sauvés, Dieu nous sauve par son Fils. Voilà ce que ça veut dire. C'est comme si on vous convoquait devant le juge pour avoir brisé une vitrine rue Victor Hugo cette semaine, d'accord ? Ou la semaine dernière. C'est comme si on vous convoquait devant le juge et qu'on exige de vous une réparation pour cette vitrine brisée, une réparation de 10 000 euros que vous êtes incapable de payer. Et là, Jésus intervient. Et il donne au juge un chèque de 10 000 euros tiré sur son propre compte. Et il dit, laissez-le partir en paix. Non seulement je paye sa dette pour la vitrine brisée, non seulement je paye sa dette, mais je me porte garant de son avenir. Toute vitrine qu'il a jamais brisée et toute vitrine qu'il brisera, c'est moi qui payerai. C'est ça que fait Jésus. C'est ça que dit Jésus au Père pour nous. Concernant cette justification par la foi, cette déclaration judiciaire, il faut préciser qu'elle est la même. Elle est la même pour tous les élus, aussi bien avant la venue de Jésus qu'après. Le salut est de même nature pour tous ceux que Dieu a voulu sauver. Tous les gens, mes amis, que vous rencontrerez au ciel, tous les gens qui passeront l'éternité dans la présence de Dieu, comme vous, ils auront été justifiés, pour reprendre les paroles de l'apôtre, justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, tous, sans exception. Dans l'Ancien Testament, les croyants regardaient vers l'avenir, vers la venue de la descendance promise, et ils se confiaient en Dieu sur la base de ses promesses. Promesses données dans le cadre de l'Alliance de grâce, d'accord ? Depuis l'Ancien Testament, donc dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui nous regardons en arrière, mais nous aussi, nous regardons vers la venue de la descendance promise, et nous aussi, nous nous confions en Dieu sur la base de ses promesses, dans le cadre de la même Alliance de grâce. Ok, un peu plus rapidement maintenant, si on approche de l'heure. Dieu conclut des alliances, Dieu appelle des hommes, Dieu justifie les hommes, Dieu adopte des hommes. Romains 8, versets 15 et 16, s'il vous plaît, et je lirai l'autre passage.
Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Merci. Et Galates 4, versets 4 à 7. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. On est donc justifié parce que Dieu nous voit en Jésus son Fils, on l'a dit. Mais parce que Dieu nous voit en Jésus son Fils, Dieu nous considère aussi comme ses enfants, comme son Fils, son propre Fils. La Bible parle de notre adoption par Dieu dans d'autres endroits, comme dans Jean chapitre 1, où il est dit que à tous ceux qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ou bien Hébreux 2, chapitre 2, versets 11 à 13. Où il est dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, parce que nous aussi, nous sommes issus du Père. Rendez-vous compte. Le gage de notre adoption, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est ce qui était écrit dans ces textes, et qui nous fait participer, pour ainsi dire, à la vie de la Trinité. Alors là, il y a un mystère éblouissant, que franchement, je ne peux pas vous expliquer, et que je ne comprends pas moi-même. Mais apparemment, d'après la parole de l'apôtre Pierre, par exemple, Dieu nous fait devenir, je le cite, « participants » de la nature divine. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, ne mettez surtout pas une question dans la boîte à questions, je ne pourrais pas vous expliquer ce que ça veut dire. Mais ce qu'on peut comprendre en tout cas, c'est que la relation du croyant à Dieu est de nature extraordinairement intime et privilégiée. L'Esprit nous illumine. L'Esprit Saint nous illumine. L'Esprit Saint nous console. L'Esprit Saint nous a été donné pour nous conduire, pour nous transformer, pour venir à notre secours, nous dit l'Écriture, en intercédant à notre place. Le texte précise pour intercéder pour nous selon Dieu. Donc ça veut dire que les prières qui montent vers Dieu depuis de l'Esprit Saint sont en parfaite conformité avec la volonté de Dieu pour notre vie. Incroyable, incroyable. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit a été donné aux croyants pour sceller le salut que Dieu leur destine. On va lire Éphésiens 4, verset 30. Si quelqu'un peut lire Éphésiens 4, verset 30, je lirai l'autre.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
L'Esprit Saint, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. 2 Corinthiens 1, verset 22. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Dieu nous a promis des choses. On l'a vu jusqu'ici, il a promis des choses incroyables, le pardon des péchés, la délivrance du mal, la vie éternelle, la fin de toute souffrance, etc. etc. Et la Bible dit que Jésus, la Bible dit comme ça, Jésus c'est le oui de Dieu à toutes ses promesses. En Jésus, Dieu dit oui à tout ce qu'il a promis. Si nous sommes en Jésus, par le moyen de la foi, Dieu nous dit oui, oui à toutes ses promesses. Mais Dieu nous a aussi, non seulement il a dit oui à toutes les promesses, mais il a versé un acompte sur tout ce qu'il a prévu de nous donner. Et cet acompte, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que la Bible parle des arts de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le dépôt de garantie, en quelque sorte, en ce qui concerne notre future résurrection et en ce qui concerne la gloire du ciel qui nous est réservée en Jésus-Christ. L'Esprit d'adoption, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, par conséquent, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Dieu, pour ainsi dire, écoutez bien ça, c'est une image biblique. Dieu a écrit un testament, l'alliance de grâce. Et la mort du testateur a été constatée, Jésus, à la croix et dans le tombeau. Et donc, parce qu'il y a testament, parce qu'il y a mort du testateur, tous ceux qui sont au bénéfice de ce testament, si vous avez suivi, ce sont donc les élus de toute éternité, tous ceux-là sont certains d'entrer en possession de l'héritage prévu par le testament. L'héritage qui leur est promis et qui leur est garanti par l'Esprit Saint, qui est ce sceau, ils sont scellés pour le jour de la rédemption, l'Esprit Saint qui est comme un gage de la filiation divine du croyant avec Dieu. Fait que nous sommes enfants de Dieu et donc héritiers. Incroyable. Cinquièmement et dernièrement, Dieu sanctifie des hommes. Dieu sanctifie des hommes. La Bible dit effectivement au sujet des croyants que Dieu les a sanctifiés ou que Dieu est en train de les sanctifier. C'est un peu délicat de définir précisément ce que ce terme veut dire, la sanctification ou le verbe sanctifier. Pourquoi c'est délicat de le définir ? Parce que ce mot est employé dans la Bible avec des significations parfois un peu différentes. C'est comme pour beaucoup d'autres mots d'ailleurs, et cela dans toutes les langues. Il y a des mots, les mots ont parfois un sens étroit, parfois un sens large, et puis il y a des fois toutes sortes de nuances entre les deux. Pour comprendre ce que veut dire ce mot dans la Bible, la sanctification, il faut donc regarder attentivement, à chaque fois qu'on le voit, il faut regarder attentivement le contexte dans lequel il est employé. Donc, tout ça pour dire, entre parenthèses, attention donc à une systématisation abusive. Dire sanctification, ça veut toujours dire ça. Et donc, ensuite, lire la Bible à travers une grille, où on a défini au préalable le sens de ce mot, et puis ensuite, on va se tromper sur le sens des versets dans lesquels ce mot apparaît. Ce que je dis ici s'applique d'ailleurs également à l'élection, par exemple. Il y a différents sens dans lesquels ce mot est employé. Donc attention au contexte dans lequel il est employé. La sanctification peut donc vouloir dire d'une part un état, et d'autre part un processus. Mais d'abord un état. Le croyant a été sanctifié. On a des versets qui parlent des croyants qui ont été sanctifiés. Ceux qui sont saints, ceux qui ont été sanctifiés. Lisons, on ne va pas, peut-être pas lire tous les exemples, mais peut-être 1 Corinthiens 6, verset 11. Quelqu'un ?
1 que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Vous avez été sanctifiés. Un état, quelque chose de fait. Hébreux chapitre 10. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Deux exemples en tout cas où on voit que la sanctification, ça désigne parfois en tout cas un état, quelque chose de fait. Le croyant a été sanctifié. Il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant le croyant est sanctifié en ce qui concerne l'auteur de ces textes. Quand la Bible parle de la sanctification comme de quelque chose qui a déjà été réalisé dans la vie de quelqu'un, cela veut dire généralement que cette personne, pour le dire autrement, a été mise à part. Elle a été mise à part. Moïse, par exemple, a sanctifié le tabernacle et les ustensiles du culte. Ce qui veut dire que ces objets qu'il a sanctifiés ont été mis à part, ils ont été nettoyés, ils ont été préparés, consacrés à un usage particulier, un usage saint. Dans un sens large, donc, cet état de sanctification s'applique à tous les membres du peuple de Dieu, le peuple saint, d'après l'Écriture. Et cela indépendamment de l'authenticité de la foi des individus qui composent ce peuple. Parce que ce peuple tout entier, croyant et peut-être hypocrite, tout entier ce peuple a été mis à part. Tout entier, sa vocation à ce peuple saint est d'être consacré à Dieu. On peut dire aujourd'hui que l'Église est sainte. Elle est corps de Christ, elle est sainte même si elle n'est pas parfaite. De même, la famille d'un parent croyant est sanctifiée, c'est le langage employé par Paul, la famille d'un parent croyant est sanctifiée parce qu'elle n'est pas comme n'importe quelle autre famille. Un appel particulier lui est adressé par Dieu. De même, on peut participer à tous les signes extérieurs de la sainteté, entre guillemets, comme le baptême, comme la sainte cène, le culte, la communion fraternelle, etc., etc. On peut participer à tous ces signes extérieurs de sainteté et, en fin de compte, ne pas être sauvé. C'est de cela que parle Hébreux chapitre 10 dans le verset dont j'ai parlé. Quelqu'un qui a tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Le jugement de ce genre d'hypocrisie, mes amis, est particulièrement sévère dans la Bible. Précisément parce que le fait d'avoir été sanctifié place sur une personne une grande, une immense responsabilité. Celle de ne pas prendre à la légère l'appel qui lui est adressé par Dieu. Dans un sens plus étroit, cet état de sanctification dans la Bible s'applique particulièrement, dans un sens plus étroit, particulièrement à tous ceux qui ont été à tous ceux qui ont réellement été unis à Christ par le moyen de la foi. Et dans ce cas, non seulement ce terme de sanctification désigne le fait d'avoir été mis à part, mais au-delà même de cela, d'avoir été purifié spirituellement et d'avoir été rendu apte à marcher dans la sainteté par la puissance de l'Esprit. La sanctification, parfois, désigne donc un état. Mais parfois, la sanctification désigne un processus. Le croyant a été sanctifié une fois pour toutes, mais il est aussi en train d'être sanctifié. D'accord ? Il a été sanctifié, il est en train d'être sanctifié. La Bible en parle des deux façons. Et dans ce cas, cette expression désigne tout simplement la croissance du croyant dans l'obéissance à Dieu. Cela aussi, d'ailleurs, est une œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Mais le croyant, dans cette œuvre, il n'est pas passif. Il n'attend pas dans son canapé que Dieu le transforme, d'accord ? Ce n'est pas du tout ça. Dieu sollicite notre volonté. À chaque fois que vous lisez les commandements de Dieu, tous les impératifs de la Bible, Dieu sollicite votre volonté. Mais si vous êtes croyant, il vous donne en même temps la volonté de lui obéir. Encore une fois, mystère. Mystère entre la souveraineté de Dieu, du rapport entre la souveraineté de Dieu et l'exercice de notre libre arbitre ici-bas. En tout cas, Dieu sollicite notre volonté et nous donne en même temps la volonté de lui obéir, si bien qu'après avoir obéi à Dieu, nous ne pouvons quand même pas en tirer la moindre gloire. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné par grâce qui fait son travail en nous. Et pour cela, il utilise divers moyens pour nous faire grandir, d'accord, dans l'obéissance à Dieu. Parmi ces moyens qu'on peut citer, on appelle cela souvent les moyens de grâce, on peut citer les plus communs, les principaux, qui sont la parole de Dieu, la prière, le culte, les sacrements, la communion fraternelle. Et le but de Dieu, par le Saint-Esprit, est de nous conformer petit à petit à ce que nous sommes déjà à ses yeux, c'est-à-dire à l'image de Jésus, son Fils. C'est ça le but de la sanctification dans la vie du croyant. Pour cela, je vais vous citer seulement un verset, mais vous avez les autres références ici. Je vais citer celui qui est dans Hébreu, puisque ma Bible est déjà ouverte dans au livre des Hébreux. Hébreux 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la sanctification. Vous voyez, notre volonté est sollicitée. Et en même temps, c'est Dieu qui nous donne la volonté de lui obéir. C'est donc son œuvre et c'est lui qui en tire toute la gloire. Pour terminer, conclusion. Il y a deux choses que j'aimerais simplement que nous retenions de cet exposé. Deux choses. C'est très simple. C'est que notre salut est complet et qu'il est complètement de Dieu. Notre salut est complet et il est complètement de Dieu. Encore une fois, notre salut est complet et il est complètement de Dieu. Parce qu'il nous a élus en Christ, il nous a aussi prédestinés en Christ. Il nous a aussi régénérés en Christ, il nous a aussi justifiés en Christ, adoptés en Christ, sanctifiés en Christ, et il compte un jour nous glorifier en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous, pour que nous prenions part à tous les privilèges propres au Fils éternel de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ? Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou le dénuement ? Ou le péril ? Ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen.